Papa, non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère, c'est même devenu ultra simple, et notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Vous allez voir, tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canon dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos campagnes email. Vous pouvez même vendre votre propre formation en ligne. Donc, si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, eh ben, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, à l'occasion de ce partenariat, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. Alors, n'attendez plus et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline. Salut la team podcast, ici Pauline Mignot et bienvenue sur Le Gratin. Le Gratin, c'est un podcast pour vous aider dans vos questionnements personnels et professionnels. Les lundis, j'interviewe des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. Le mercredi, je réponds à vos questions sur des thèmes hyper variés autour de l'entrepreneuriat, du business de manière générale, du marketing, des réseaux sociaux et même du développement personnel. Et aujourd'hui, je suis avec Julie, qui est la cofondatrice de Nuoho, une nouvelle marque de cosmétiques bio qui vient de faire entrer un fonds d'investissement à son capital d'ailleurs. Vous pourrez retrouver Julie et Nuoho sur Instagram, notamment à Nuobox, donc N-U-2-O Box, et via leur site web qui est tout simplement nuobox.com. Je vous mets tout ça dans les liens évidemment du podcast et puis sur le site du Gratin. Alors Julie me pose la question suivante. Comment faire concrètement quand on va quadrupler les effectifs à un an avec des personnes géographiquement séparées? En deux mots, Julie a levé des fonds, elle cherche à développer au maximum son entreprise et notamment à ouvrir un certain nombre de boutiques. On lui souhaite d'ailleurs de réussir à le faire. Alors avec Julie, vous l'aurez compris, on a parlé recrutement, mais aussi culture d'entreprise et puis management. Beaucoup de jeunes entrepreneurs qui lèvent des fonds oublient l'importance de l'humain et de la cohésion d'une équipe derrière une vision d'entreprise. Un an plus tard, parfois deux, parfois trois, ils se retrouvent avec des employés qui tirent dans tous les sens. Des clans se constituent au sein même d'une boîte de moins de 10 personnes. Et ce genre d'histoire, je peux vous dire que pour en avoir entendu beaucoup parler, ça n'est malheureusement pas si rare et ça finit, je peux vous le dire, toujours mal. Alors en général, il faut l'admettre, c'est pas la responsabilité des nouvelles recrues qui ne font que faire ce qu'on leur demande, mais plutôt des dirigeants qui n'ont pas eu la vista de créer une vraie cohésion d'équipe. Ainsi, mon conseil principal à Julie a été de surtout ne pas se précipiter et de mettre en place un maximum de points de repère fixes pour que son équipe, en grandissant, ne se disperse jamais. Allez go, je vous en dis pas plus et c'est parti pour la leçon du gratin. Salut, c'est Pauline, je te dérange pas?
Non, pas du tout.
Écoute, je voulais t'appeler pour répondre à ta question. Bienvenue sur le podcast.
Trop bien. Super. Non mais génial. Merci beaucoup en tout cas.
Bah écoute, merci à toi pour ta question.
Puis avoir de m'abreuver de tes conseils via le podcast, avoir des petits conseils personnalisés, c'est top.
Alors est-ce que tu peux me dire voilà ce que tu voulais me reposer ta question à l'oral?
Ouais, alors du coup ma question c'était parce que nous là du coup on est en train de bien grandir et donc on va recruter pas mal de monde.
Tu peux me rappeler juste ton activité pour que je sois bien au courant?
Ouais. Alors en fait on a lancé il y a 3 ans avec mon frère et une amie un e-commerce de cosmétiques naturels et bio,
okay,
qui s'appelle Nuoho.
Super.
Avec une box beauté et une boutique en centre-ville d'Orléans, parce qu'on est originaire d'Orléans.
Okay.
Là, on est en train de faire une levée de fonds, pour du coup vraiment grandir et puis se déployer en France, parce qu'on aimerait ouvrir 10 à 12 boutiques d'ici à 2021 un peu partout en France. Et donc, on est en train de... Et puis, on aimerait aussi beaucoup staffer l'équipe e-commerce pour du coup encore plus démultiplier... les performances du site.
Ouais.
Et donc, là, actuellement, on est 7. Et
super.
L'idée, ce serait à un an de passer à 24 personnes, voire
d'accord,
un peu plus.
Ok, très clair.
Donc ma question, du coup, c'était comment tu triples ou quadruples tes effectifs en peu de temps.
C'est une bonne question.
D'avoir une équipe soudée, d'emmener tout le monde vers le même objectif. Voilà. Et en plus, on sera géographiquement un peu séparés. Tu auras un siège, on sera peut-être 15, quelque chose comme ça.
Ouais.
Et après, dans les boutiques, il y aura peut-être 2 personnes à peu près par boutique, donc éparpillées un peu partout en France. Là, du coup, il y aura, pareil, 10-12 personnes.
Dans les boutiques. Sincèrement, c'est une vraie très bonne question. Alors, il y a deux questions. Du coup, il y a le développement de l'activité et comment, en gros, scaler ton recrutement pour avoir les meilleures compétences et garder une culture d'entreprise, si je comprends bien. Et la deuxième question, j'y répondrai après, c'est plus sur le travail à distance, qui est un vrai sujet. Sur la première question, je pense que tu as utilisé le bon mot, tu as dit il faut qu'on soit tous alignés, et en fait clairement je pense que pour que le recrutement se passe bien et pour que la boîte se développe bien, il faut prendre un petit peu son temps quand même, recruter vraiment les bonnes personnes et surtout en fait avoir une vision très claire des personnes que tu vas chercher et de leurs objectifs et de l'entreprise. Donc ça fait 3 visions à avoir, c'est pas si simple que ça, mais il faut vraiment les formaliser. Et je pense que quand tu fais passer des entretiens, surtout quand avant ça même tu vas commencer à réfléchir à qui tu as besoin d'avoir dans ton entreprise pour t'aider, en fait il faut concrètement que tu mettes tes objectifs, si tu veux que tu dises ok, nous notre mission, donc tu as certainement déjà fait peut-être un travail de plateforme de marque, mais nous notre mission ça va être de rendre la cosmétique plus naturelle, enfin je sais pas exactement quelle est ta mission, mais tu vois, vraiment que tu la formalises. Donc ça, c'est hyper important, parce que quand tu vas diffuser tes fiches de poste, quand tu vas commencer à recruter des gens, il faut vraiment que tu aies des personnes qui y croient, qui y adhèrent, et que non seulement qui adhèrent à ta mission, mais après dans la manière dont vous allez l'implémenter, même si ça risque de changer avec le temps, toi tu vas avoir un rôle de conviction, tu vas avoir un rôle de vente concrètement auprès de tes équipes pour créer cette culture d'entreprise et vraiment avoir des personnes qui sont alignées en permanence. Et moi, je me permets de te donner un conseil, parce que sincèrement je le vois vachement autour de moi et même dans ma boîte c'est déjà arrivé, si tu as des personnes qui sont pas alignées, même si elles sont hyper motivées, même si elles aiment l'entreprise, même si elles aiment les gens, même si c'est des personnes bien, tu vois, qui veulent bosser, honnêtement, au bout d'un moment, ça se passe mal. Donc ton devoir, toi, d'entrepreneur, de dirigeant, de leader, c'est ça le leadership, en fait, c'est juste de les convaincre en permanence et aussi de les pousser dans leur retranchement. Parce que quand, avec le temps, au bout d'un an, 2 ans, tu vas te rendre compte que votre vision, peut-être qu'elle a un petit peu évolué, peut-être que certaines personnes y adhèrent plus tellement de la même manière, faut pas laisser les choses sous le tapis, si tu veux. Faut aller chercher les gens, faut leur dire, faut vraiment créer des moments, si tu veux, où tu vas pousser les gens dans leur retranchement, leur demander pourquoi ils adhèrent pas, enfin vraiment essayer de les forcer, si tu veux, à s'exprimer, à communiquer. Parce que je pense que quand on est salarié entre guillemets, même dans une start-up, on est parfois un peu on se dit c'est pas mon rôle, je suis pas légitime, etc. Et ensuite les gens commencent à se désintéresser, à se sentir plus à leur place. Et donc c'est hyper important en fait que toi tu sois très proactive dans ta manière de vraiment créer cet alignement. Donc ça, je dirais que c'est le premier point qui est hyper clé et qu'il faut faire et prévoir vachement en amont, je pense. Le deuxième point, et tu m'arrêtes si t'as des remarques ou des questions, bien sûr, mais pour moi le deuxième point par rapport à ta question sur la scalabilité, c'est évidemment de fixer en fait très en amont quels vont être tes besoins et donc quels sont toi tes objectifs. Par exemple, tu sais que ton objectif principal, je sais pas, c'est de faire de la croissance, auquel cas tu as envie, je sais pas, de vraiment structurer une équipe autour de la création de croissance. Et donc ça va être des sales, ça va être des commerciaux, ça va être des personnes en boutique comme tu disais, ça va être peut-être du web marketing. Mais ça, en fait, il faut que tu essayes de le structurer en amont, parce que le problème, c'est que si jamais tu recrutes uniquement des personnes pour répondre à des problèmes entre guillemets ponctuels, et c'est le cas souvent quand on est entrepreneur, tu vois, tu te dis j'ouvre une boutique, j'ai besoin d'avoir 2 personnes en boutique, mais si t'as pas un plan un peu plus global que ça, sincèrement tu vas te laisser entraîner ces personnes-là, en plus tu vas les recruter pour des rôles ponctuels, mais à terme tu ne sauras pas comment les faire évoluer dans l'entreprise. Donc ton rôle, c'est quand même vraiment tu vas pas pouvoir prévoir les choses 10 ans à l'avance, c'est évident. Mais il faut quand même que t'essayes de te projeter un minimum et de structurer en amont, en grands principes, plus qu'en personne aussi, ça c'est important, et en fonction, quelles sont les grandes fonctions qu'il faut que t'aies dans ton entreprise et sur lesquelles il faut que t'appuies plus que sur les autres, tu vois. Ça c'est hyper important, il y a beaucoup de gens qui ne le font pas. On va pouvoir parler concrètement de ta boîte, mais en gros, il faut probablement une équipe sales, en effet, donc d'acquisition. Il faut probablement une équipe quand même d'opération, de production, j'imagine. Il faut probablement une équipe aussi peut-être de gestion financière, administrative, etc. Et il faut ça que tu l'articules, que tu détermines à peu près combien de personnes tu as besoin d'avoir dans chaque poste, à ton avis. Est-ce que certains postes peuvent se recouper ou pas? Et ensuite, si tu veux que tu crées les fiches de poste afférentes. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui, malheureusement, quand elles recrutent, au début, créent une fiche de poste, etc. Et puis ensuite, en fonction des profils, vont vachement adapter, si tu veux, ce qu'elles recherchent à la personne en face. Et le problème de c'est que du coup, c'est plus toi qui dirige entre guillemets l'entreprise. Et c'est pas méchant quand je dis ça, mais ce que je veux dire, c'est que t'es quand même en tant qu'entrepreneur obligé de juste être au vent de la bouée, si je puis dire, et juste décider en amont de ce que tu veux et pas te laisser en permanence embarquer. Parce que le problème, c'est que tu vas en permanence avoir des sollicitations extérieures, tu vas en permanence avoir des gens de qualité qui vont vouloir rentrer dans ton entreprise, et ça peut être bien, mais il faut aussi savoir dire non et rester droit dans ses bottes par rapport à toi, ton plan et tes objectifs. Quitte à ce que ça évolue, mais voilà. Okay. Donc ça, je sais pas si t'es déjà dans cette démarche ou comment t'as prévu toi là. Tu me parlais de passer à 24, c'est assez précis. Est-ce que tu sais déjà exactement ce que tu veux faire, quoi?
Bah, on sait déjà plus ou moins exactement ce qu'on veut faire, dans le sens où, comme tu disais, on a un peu, comment dire, structuré un peu en silo, enfin en pôle, tu vois, comme tu disais, le pôle sale, acquisition, ouais. Marketing, web marketing, etc., le pôle finance, le pôle supply chain, parce que du coup, nous, on achète des cosmétiques naturels et bio, donc on a la partie achat, on a la partie logistique, vu qu'on expédie un peu plus de 50 000 colis par an, donc du coup, il y a toute cette structuration à avoir, et puis après, il y aura le pôle retail.
D'accord.
Là, il y aura quelqu'un, tu vois, l'idée, c'est d'avoir un responsable, un peu un animateur de réseau, qui va gérer un peu toutes ces boutiques, et qui va aussi, du coup, donc, animer tous les responsables de boutiques, les conseillères de vente, etc. Et en même temps, qui fera aussi les ouvertures. Donc, quelqu'un qui est quand même un peu couteau suisse, parce que dans un premier temps, on peut pas forcément recruter, 2-3 personnes. Sur ces postes-là, quand on a besoin d'avoir à la fois quelqu'un qui est bon sur ouverture des points de vente, localisation, etc., et en même temps sur management, animation d'un réseau en délocalisé, quoi.
Et vous avez déjà réfléchi à, je sais pas, tu peux peut-être m'en parler, combien de fondateurs vous êtes ou déjà dans l'entreprise et qui, en gros, va être en charge de chapeauter ces diverses équipes? Parce que c'est aussi souvent ça le problème quand on crée une boîte. Au début, tout le monde fait un peu tout et c'est très bien. Oui. Mais le problème, c'est que, à un moment donné, en fait, tu vas te rendre compte qu'il va falloir te spécialiser et tes associés aussi. Et quand on croit beaucoup, c'est souvent à ce moment-là qu'il y a des problèmes qui se créent. Parce que, en fait, chacun se marche un peu sur les pieds. Donc, je pense qu'il faut que vous clarifiez ça si c'est pas déjà fait. Vous l'avez déjà fait, justement?
Ouais, du coup, on l'a déjà fait. En fait, nous, dès le début, c'était assez clair parce que mon parcours faisait qu'on était déjà, qu'on avait chacun une branche. Mmh. Donc, mon frère, tu vois, était plus finance, il avait fait une école de commerce. Gwen, mon autre associée, elle avait fait Sciences Po Rennes avec une spécialisation market. Donc, elle était plus marketing. Et moi, j'étais plus produit, ingé, opérationnel, etc.
D'accord.
Donc ça, on avait déjà un peu structuré. Et là, du coup, les choses avançant, mon frère, il a pris toute la partie e-commerce, data, etc. C'est un truc qui lui plaît beaucoup, qui s'est beaucoup formé là-dessus. Et donc, c'est lui qui porte le pôle vraiment e-commerce. Gwen, elle continue tout ce qui est marketing, com, image de marque, etc.
D'accord.
Et moi, je reste sur tout ce qui est supply, donc achat, logistique et retail.
D'accord, très bien. C'est bien en fait d'y avoir réfléchi comme ça, parce que tu vois, c'est pas forcément évident, par exemple, que le retail il soit dans la partie opération. C'est pas forcément évident que le web marketing il soit dans la partie finance, comme là visiblement ça va être le cas. Donc je pense que c'est bien de mettre les choses claires, parce que typiquement tu pourrais dire que le web marketing il est dans la partie marketing, et probablement d'ailleurs qu'il va y avoir des interactions entre les deux branches, et donc il faut que vous appreniez un petit peu à collaborer ensemble. Super clair. Donc ça, c'était les deux points sur le scale. Le troisième point, c'est évidemment au niveau du recrutement. Donc je t'ai dit, clarifier l'objectif en numéro un, on va dire, de la mission générale de l'entreprise, parce que ça, c'est ce que tu vas vendre en permanence à tes futurs salariés, et de la culture. Deuxièmement, donc c'était ce que je te disais, c'est aussi clarifier l'organigramme, mais ça, visiblement, c'est quelque chose que vous avez déjà fait, donc c'est top. Et troisièmement, pour moi, c'est clarifier à chaque fois, au cas par cas, les fiches de poste. Ça, j'en ai parlé dans la dernière leçon, mais en fait, c'est hyper important, et moi, je me rends compte que moi, je l'ai pas toujours fait, bien évidemment. Et c'était une grosse erreur, et je pense que très souvent d'ailleurs, quand on recrute mal, en fait c'est pas que les gens sont des mauvaises personnes, les gens que tu recrutes, c'est plus qu'en fait toi, en tant qu'employeur, t'as mal fait ton job en fait, de avoir une fiche de poste qui est extrêmement précise, avec surtout des objectifs et des missions et des attentes qui sont très claires.
Et donc, je pense que toi, il faut aussi d'emblée que tu le fasses, parce que il vaut mieux faire un peu peur, si tu veux, entre guillemets, à quelqu'un que tu vas employer, en lui disant, voilà les objectifs, voilà concrètement exactement où je t'attends, voilà les choses qui comptent complètement pour moi en termes d'autonomie, etc. Plutôt que d'essayer de convaincre quelqu'un de rentrer dans ta boîte et ensuite, au bout de 6 mois, de te rendre compte que finalement, c'est pas la bonne personne. Donc, il vaut mieux que tu filtres énormément au début en ayant, je pense, donc vraiment des objectifs très très clairs. Et ça, c'est un vrai travail. Il va falloir que tu listes et que toi et tes associés vous listiez à chaque fois au cas par cas. Il faut évidemment que ce soit le manager en question qui le fasse, mais qu'il soit super clair sur ce qui compte pour lui. Et sincèrement, ça va tout autant des objectifs, d'indicateurs chiffrés. Moi, par exemple, j'attends que dans la boutique, tu fasses X chiffre d'affaires. Quitte, si tu veux, à ce que ça évolue, si jamais, comme c'est une nouvelle boîte, tu sais pas encore combien tu vas faire de chiffre d'affaires, mais que tu fixes quelque chose et qu'ensuite t'en discutes avec la personne, justement, tu discutes des objectifs quand vous aurez commencé à collaborer, mais que ça soit quand même clair dès le début quelles sont tes attentes. Et aussi au niveau sincèrement humain, c'est hyper important, je pense, que tu dises quelles sont les valeurs qui comptent pour toi, quelles sont les choses que honnêtement pour toi qui sont des no-go complètement quelqu'un qui n'est pas ponctuel, je dis n'importe quoi, qui vient tout le temps en retard au rendez-vous, quelqu'un qui ment, je dis n'importe quoi. Ça paraît évident, mais en fait ça n'est pas si évident que ça, et il vaut beaucoup mieux le dire en amont, parce que quelqu'un qui habituellement est quelqu'un de hyper créatif mais pas très rigoureux, ça peut être absolument exceptionnel pour certains postes, et pour d'autres c'est une catastrophe, et il vaut mieux se mettre les choses très très claires dès le début, donc à la fois en termes d'objectifs chiffrés, mais aussi en termes vraiment de talent, si tu veux, et de personnalité. Je pense qu'il faut être vraiment très clair sur ce que tu veux, et ça t'aidera beaucoup, je pense, à ne pas faire d'erreur, parce que tu verras que la science du recrutement n'est pas une science facile.
Ça c'est clair, mais je pense que le plus dur avec le management, c'est pas du tout exact, c'est ça. Ça ne dépend pas que de toi. Et j'ai une question, du coup, tu vois, si tu te rends compte à un instant T que t'avais pas fait justement ta fiche de poste assez claire, tes objectifs assez clairs, parce que t'avais pas vu cet objectif, ou t'avais pas vu cette mission dans le poste, comment tu réajustes avec la personne? Faut avoir choisi quelqu'un qui est déjà méga prêt au changement.
Il faut absolument, ce qu'il faut surtout, moi, si je peux te donner un conseil, c'est ne jamais garder les choses pour toi et essayer de les cacher, de les mettre sous le tapis. Il faut absolument que t'en parles. Il faut que tu sois clair. Moi, mon expérience, c'est qu'un employé, un fournisseur, un client, peu importe, si jamais tu lui dis que les choses ont changé, que tu t'es trompé, si t'es honnête, si tu veux, et que tu montres aussi que t'es vulnérable et que t'essayes de collaborer, de communiquer et juste de le faire avec cette personne, de l'inclure aussi dans le process de décision, honnêtement, t'auras jamais quelqu'un qui va être désagréable et qui va te dire non et qui va te dire « Ah, mais c'est insupportable ». Et à la rigueur, si elle le fait, j'ai envie de te dire que c'est une bonne information à prendre aussi, parce que ça veut dire que cette personne, elle est pas très à l'écoute. Donc moi, mon conseil, c'est que si tu t'en rends compte, il faut que tu le formalises et que tu y réfléchisses et que tu saches exactement, en tout cas, que tu saches exactement pourquoi ça a évolué, etc. Et ensuite, que tu entre guillemets, convoques cette personne, en tout cas, que tu fasses un point avec elle. Tu dis, écoute, il faut que je te parle de quelque chose. En fait, on est quand même une jeune structure. Je me rends compte que le poste, en fait, il est pas tout à fait celui que je pensais. Tes objectifs, c'est pas tout à fait ceux que je pensais. Mais j'aimerais en discuter avec toi. Qu'est-ce que t'en penses? Et inclure cette personne, tu vois, dans le process de décision. Je pense que le côté hiérarchie, merci de faire ça, c'est pas que ça fonctionne pas. C'est que je pense que la réalité, c'est que si cette personne, elle est sur le terrain et qu'elle fait bien son job et que tu lui fais confiance, autant prendre son feedback, tu vois, et essayer de savoir ce qu'elle en pense aussi. Et je pense que si tu fais ça, et je pense que c'est tout à fait légitime de le faire, et au contraire, c'est plutôt sain et c'est plutôt normal, si tu veux, si vous avez quelques mois ou années d'existence, c'est tout à fait normal qu'un poste, il évolue. Donc, pour moi, ça serait l'inverse, en fait, qui serait anormal.
D'accord. Ok.
Donc voilà pour cette question-là. Je voulais te parler rapidement quand même de télétravail, parce que c'est pas un sujet facile. En gros, pour que je comprenne, donc vous, c'est les personnes qui vont être essentiellement dans les boutiques, c'est ça, qui vont travailler à distance.
Ouais, exactement. Alors, et du coup, on pourra pas, si tu veux, aller visiter toutes les boutiques tout le temps, tous les jours.
C'est des boutiques que vous avez en propre ou comment ça se passe?
Non, ce sera des boutiques qu'on aura en propre. Ouais.
D'accord.
Là, pour l'instant, on en a qu'une, mais voilà.
Bon, c'est clairement, c'est un vrai sujet, parce qu'en fait, tu vas te rendre compte que la distance, malgré tout, bah, en fait, ça crée énormément de problèmes de communication, ça crée des problèmes de motivation. Je dis pas que le télétravail est impossible. Nous, par exemple, dans ma boîte, on a quelqu'un qui travaille à distance depuis maintenant un an et ça se passe plutôt bien. Mais en fait, t'es obligé de mettre en place des outils. On a aussi, par exemple, nous, une boutique à Lyon. Là, on est en train d'en ouvrir une autre à Toulouse et les personnes sont très incluses dans la boîte. Mais justement, c'est parce qu'on a mis en place des outils. Donc, typiquement, déjà, à un niveau très basique, moi, ce que je te conseille, c'est de mettre en place des outils de messagerie type sans faire de pub, Slack ou Teams, ce genre de choses, Skype, enfin, faites comme vous voulez. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il est hyper important que ces personnes-là communiquent en permanence avec le siège. Je pense que c'est important parce que comme ça, elles vont avoir l'impression, et c'est la vérité, de faire partie vraiment de l'entreprise. Je pense qu'il y a un gros risque, si tu veux, quand t'es à distance, c'est de créer ta petite entreprise dans l'entreprise. Alors, c'est possible si jamais tu crées un modèle de franchise, mais si c'est pas votre cas, franchement, moi, je te conseille réellement d'essayer d'impliquer au maximum cette personne en leur demandant des remontées terrain, parce que c'est hyper intéressant, en fait, que tu saches localement qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, de les inclure dans les, entre guillemets, décisions générales de l'entreprise, stratégiques, si jamais tu le fais déjà. Je pense que des remontées terrain, en fait, t'as tout intérêt, en tout cas, à en avoir le plus possible. Donc, pour moi, ça fait sens. Et ça, via des outils, honnêtement, comme Slack, comme des Google Docs, comme Skype, comme Zoom, enfin, t'as vraiment moyen, en fait, de recréer un lien assez régulier. Et je pense qu'il faut vraiment que tu te forces à le faire. C'est un vrai travail du management, mais je pense que c'est absolument clé parce que mon expérience est que si tu le fais pas, tu vas avoir des électrons libres qui sont pas des personnes mal intentionnées, mais qui tu vas te rendre compte au bout de 6 mois que juste la boutique elle vit sa vie complètement indépendamment de toi, et si ça se trouve il y a plein de process qui sont pas respectés, il y a plein de remontées qui sont pas faites, enfin, et surtout t'as des personnes qui vont pas forcément être aussi motivées, aussi alignées en termes de culture, ce dont on parlait sur le premier point, que si jamais tu les inclus. Donc l'avantage, c'est qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus simple qu'il y a quelques années grâce à tous ces outils que je te citais, et je pense que c'est absolument clé que vous les mettiez en amont très tôt, et surtout que tu donnes vraiment une place dans l'entreprise, que ces personnes ne soient pas considérées comme des sous-employés, comme des personnes qui sont à distance. Il faut faire des événements d'entreprise où tu les fais venir régulièrement. Je dis pas qu'il faut le faire toutes les semaines, mais tu vois, une fois tous les 2 mois, faire un événement juste pour que les gens se connaissent entre eux, s'apprécient, dialoguent, échangent. En fait, c'est pas du tout du temps et de l'argent dépensé, tu vois, mal dépensé, je pense. Ouais.
C'est hyper important. Ok. Ouais.
Surtout si tu as vocation à avoir, comme tu disais, beaucoup de boutiques, en fait, je pense qu'il est absolument clé que très tôt, tu crées un système, si tu veux, un modèle qui va être réplicable et qui te permet d'avoir cette culture d'entreprise très proche et qui te permet d'avoir justement un lien vraiment de proximité avec ces employés-là, qu'ils aient l'impression, et que ça soit le cas d'ailleurs, de créer vraiment de la valeur pour l'entreprise et de faire partie intégrante de la boîte et de sa culture. Ça, c'est hyper clé. Tu vois, un truc qu'on a mis en place avec Gemio et qui fonctionne très très bien, c'est donc ces fameux outils de messagerie. Et typiquement, nous, on a une fois par semaine des remontées terrain de nos équipes de vente dans les boutiques en province, en région. Et en fait, ça, c'est absolument clé parce que les personnes se sentent, et c'est la vérité, hyper impliquées. Elles se rendent compte qu'en fait, au-delà de juste vendre, elles ont vraiment un rôle. Bon, bah écoute, j'espère t'avoir aidé.
Ah bah ouais, non mais là, super, là, j'ai pris plein
de... Bah écoute, ça me fait bien plaisir. Bon, désolé, il y avait un peu des bruits dans tous les sens, j'ai mon téléphone qui a sonné, il y avait des travaux à côté, c'est un peu l'enfer, mais mais voilà. Bon bah écoute...
Super top.
Je te dis à bientôt, bonne continuation, et puis tiens-moi au courant pour la suite, j'espère que ça va bien se passer, bon courage pour la levée.
Ouais, c'est bientôt fini là, donc c'est top, on est super contents.
Bon,
donc
bravo.
Voilà, ça va nous permettre de bien se développer, et ça c'est chouette.
Canon. Bah écoute, merci beaucoup, et puis tiens-moi au courant, je te dis à bientôt.
Et voilà, terminé pour aujourd'hui. Un grand, grand merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que le format vous a plu. Si oui, dites-le moi avec 5 étoiles ou même un petit commentaire sur l'application iTunes. Et puis si iTunes, c'est pas votre truc, si Apple, vous n'avez pas envie d'en entendre parler, c'est pas grave, vous inquiétez pas, il y a d'autres moyens de m'aider. Vous pouvez tout simplement en parler autour de vous. Prenez 2-3 amis et puis diffusez-leur le podcast. Moi, ça m'aide énormément et qui sait, ça les aidera aussi peut-être. Quoi qu'il en soit, merci pour votre temps. N'hésitez pas à postuler aussi à la leçon du gratin si l'idée de passer sur le podcast vous intéresse. Donc à vous de jouer, et bientôt pour une nouvelle leçon du gratin.